Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Frédéric, depuis quelque temps, on parle de ces nombreux nouveaux constructeurs automobiles qui vont débarquer chez nous dans les prochains mois, prochaines années. Ça a déjà commencé avec Polestar. Rivian s'en vient. Il y en a énormément. Et on parle beaucoup ces temps-ci de VinFast, qui est un constructeur, je m'en laisse dire,
vietnamien.
Vietnamien, excuse-moi le lapsus. Et évidemment, ben, notre collègue Julien Amado est allé faire un tour du côté du Vietnam, comme ça, pour aller découvrir peut-être les gènes de l'entreprise, peut-être aller chercher un peu plus le pouls de cette entreprise-là.
Oui, le Guide de l'auto était parmi les premiers médias au monde à pouvoir accéder à la nouvelle usine de VinFast, découvrir
excellent
vraiment
plug,
cette marque-là.
Frédéric.
C'est pas pire, hein?
Quand même.
Puis on accueille Julien, qui est de retour en sol canadien, qui a passé un test PCR, qui n'a pas la COVID. Fait que, salut Julien,
tout
content de te revoir.
Allô messieurs, c'est toujours
appris,
un plaisir.
As-tu appris quelques mots de vietnamien pendant ton périple de 5 jours?
Je te dirais que c'est un peu aride d'apprendre ça de même. Là. Je te cacherai pas que j'ai parlé anglais plutôt que vietnamien.
Bon, évidemment, VinFast, c'est un constructeur qui nous avait impressionné avec un dévoilement au salon de Los Angeles l'automne dernier. On avait dévoilé deux VUS sur place et on avait aussi annoncé que ce constructeur-là débarquerait d'ici peu au Canada avec une gamme de 5 modèles. C'est quand même assez audacieux. C'est du 100% électrique. C'est évidemment du VUS, mais c'est un constructeur dont on n'avait à peu près jamais entendu parler, Julien, et qui pourtant, du côté du Vietnam, contrôle à peu près tout, là, parce que c'est un conglomérat qui dépasse beaucoup le cadre de l'automobile. On peut comparer VinFast peut-être à Hyundai du côté de la Corée.
Oui, alors même ça va très loin dans l'économie, dans le sens où tout commence par le mot VIN, en fait.
Ouais.
T'as VIN quelque chose à chaque fois. T'as VIN Homes pour tout ce qui va être de l'habitation.
Ouais,
t'as VIN Uni pour l'université. Tu vas avoir VinFast pour les autos, évidemment. Mais t'as aussi d'autres affaires un peu étranges. T'as pas VIN Mec.
Content qu'ils n'avaient pas appelé ça VIN Maison.
Non, ça, ils l'ont pas.
Ici, 20 maisons, c'est...
Non, c'est
ouais,
ça.
Ça n'a pas la même connotation. Mais VIN, le conglomérat VIN existe depuis longtemps au Vietnam. Pour être déjà allé, je l'ai vu en action. Mais VinFast, la division automobile, c'est récent. Là.
Ah, VinFast, c'est fin 2017. Ça n'a même pas 5 ans.
Voilà.
Donc, c'est très récent. Et en fait, eux, ils ont commencé... Ils ont eu une approche assez pragmatique, puis on peut leur donner ça. Ils se sont dit, OK, on ne sait pas faire des autos. On fait toutes sortes d'affaires, pas des autos. On va faire des partenariats avec des gros constructeurs. Fait qu'ils sont partis avec GM pour faire la VinFast Fadil, qui est en fait une Spark, ni plus ni moins, avec des bumpers en plastique, puis une calandre un peu refaite, puis deux, trois affaires changées.
C'était d'ailleurs, petite anecdote, c'était mon taxi quand j'ai quitté le Vietnam pour retourner à l'aéroport. C'était une Fadil.
Ben, il y en a quand même beaucoup. Moi, j'en ai vu beaucoup sur la route, des Fadil. Puis après ça, ils sont embarqués avec BMW. Et là, en fait, ils ont sorti deux véhicules. Donc, les véhicules, bon, les noms sont un peu curieux, mais la VinFast Lux, et donc il y a la Lux A2.0 et Lux SA2.0.
Une berline et un VUS.
Exact. Basé sur une série 5, puis sur le X5. Et une espèce de Frankenstein, c'est le President. C'est une base de X5, mais il n'y a plus le 2 litres BMW. Ils ont mis un 6.2 GM.
Là, on parle de VinFast avec des
t'es
moteurs
à essence. T'es en train de me
essence.
Dire qu'on a mis un 6,2 litres V8 GM de Sierra Denali.
Exactement.
Dans un X5.
Puis qu'on l'a appelé President.
Ouais.
Et j'adore ça.
Ah, c'est incroyable. J'aurais voulu le conduire. On n'a pas eu l'occasion, malheureusement, mais j'aurais voulu conduire ça.
Malheureusement pour Antoine, c'est pas ces modèles-là qui vont arriver en Amérique du Nord.
Mais c'est
on
ça.
S'en vient ici. Là, on se tourne vers le 100% électrique. Là. Puis c'est ça qu'on vous a présenté.
Finalement. C'est ça. En fait, ils se sont fait
est-ce
la main
que,
là-dessus.
Juste une question avant.
Ouais.
Est-ce qu'ils ont une Spark avec un 6 cylindres en ligne BMW? Là,
alors non, malheureusement.
Parce que ça aurait été pas pire aussi.
Hein? Non, je te l'aurais dit pour que tu en achètes une.
Un petit S58 là, dans une Spark, ça aurait été parfait.
Mais non, ça, ils l'ont pas.
Ah, donc, bon, okay.
Après avoir fait tout ça en thermique, là, ils vont embarquer sur donc 100% électrique. Et ouais. Nous, on a pu voir la VF E34, qui est une sorte de petit VUS sous-compact qu'on n'aura pas chez nous. C'est une sorte de petite Bolt. Ça ressemble un petit peu à ça. Elle était en construction quand nous, on y était. Et donc, le VF8, qui est le plus petit des deux VUS intermédiaires, qui, lui, s'en viendra chez nous. Lui, on a pu le voir.
C'est intermédiaire. Donc, c'est un VUS à deux rangées, là, à cinq passagers.
Ouais. Mais quand tu dis intermédiaire, tu compares ça à quoi en termes de format?
Moi, eux considèrent que c'est un intermédiaire. Moi, je te dirais, je le trouve un petit peu petit pour un intermédiaire.
C'est comme plus gros qu'un RAV4 ou...
Moi, je dirais que c'est un gros RAV4, là, mais c'est pas plus gros qu'un
RAV4. Un Outlander, un Tiguan, quelque chose comme ça.
Genre, ouais, plutôt.
OK. Mais cinq passagers.
Oui.
Parfait. OK.
Puis ça, ce véhicule-là, qui va être le premier à arriver au Canada dès cette année.
Oui, lui est supposé arriver. Ouais, il est supposé arriver à la fin de l'année 2022.
OK.
Parce qu'ils vont commencer à le construire là. Nous, celui qu'on a eu, c'était un pre-prod. Donc, il venait vraiment de sortir de l'usine à peine quand on est arrivé. Et donc, lui est censé arriver là. Et moi, j'ai conduit le VF8 pendant un très court instant parce qu'on était énormément de gens et il y avait très peu de temps. Donc, moi, je te dirais, je l'ai conduit 3 km max là. Donc,
sur les routes, un circuit fermé ou sur les routes du Vietnam?
Malheureusement, pas sur les routes parce qu'on ne peut pas, avec le permis de conduire canadien, rouler au Vietnam pour des questions d'assurance. Fait que, il fallait passer un autre permis. C'était un
peu compliqué. Mais ce véhicule-là, bon, grosso modo, là, on va reparler un peu plus tard du réseau de distribution, etc. Mais ça, on s'attend à quoi, là? Autonomie, taille de batterie,
Alors, il y a plusieurs affaires. C'est là où c'est un peu nébuleux. On nous a dit deux choses qui étaient différentes. Donc, je vais vous donner les deux. Oui, ça part bien. Mais je ne sais pas encore exactement ce que ça va être. Ce qu'on nous a dit au départ, c'est qu'il y aurait deux batteries, une de 82 kWh, une de 87 kWh utilisables, ce qui correspondrait à 90 et 100 respectivement environ. Okay. Et on aurait une autonomie comprise entre 400 et 450, 460 km pour du EPA.
Parce qu'on est dans du 4 roues motrices?
Oui, all-wheel drive pour tout le monde.
Les chiffres qu'eux avancent un peu plus que ça. Là. Toi, tu l'imagines pour l'autonomie.
Eux parlent en WLTP, mais pour nous autres, là, ça veut rien dire.
400 à 450 km.
On peut s'attendre à ça pour nous.
C'est la norme actuellement pour ces véhicules-là.
Ça, c'est correct. Mais j'ai aussi eu une autre information d'une autre personne qui disait qu'il y avait seulement la batterie 82 et qu'il y aurait deux autonomies différentes, une d'environ 400, l'autre de 420-430. Avec deux puissances en fait différentes. La version plus puissante aurait un peu moins d'autonomie et la version la moins puissante.
Mais on est dans des virgules parce que de toute façon les tailles de batterie sont très semblables. Là.
C'est ça.
C'est pas comme du côté du Lightning où tu as un écart considérable entre les deux tailles. Là.
Non, exact. Okay. C'est pas ça.
Bon.
Fait que je ne sais pas encore, mais ça tournera autour de 400 de toute façon. Mais donc le fine-tuning, il nous en manque encore un peu. Là.
Mais parle-nous du véhicule un peu. Tu l'as conduit, bon, OK, c'était pas longtemps, mais tu as quand même eu l'occasion de t'asseoir dedans.
Oh, oui, absolument.
Le feel du véhicule, comment tu t'es senti? Est-ce que c'est comparable à ce qui se vend actuellement sur notre marché?
Oh, oui, honnêtement, c'est sérieux ce qu'ils ont fait. Tu montes là-dedans, on dirait une Tesla, mais modèle 3. Tu as un gros écran de 15 pouces avec la vitesse en haut à gauche. Eux, par contre, ont mis quand même un système de vision dans le pare-brise, ce que n'a pas Tesla. Mm-hmm. Ça, c'est une bonne idée. Mais l'interface ressemble. Tu as l'écran divisé un peu de la même manière, avec en bas la ventilation et tous les réglages.
Ouais.
Un propriétaire de Tesla ne serait pas du tout dépaysé à bord de ce véhicule-là. Il y a quelques trucs amusants, genre les Komodo.
Il y aurait probablement moyen de chialer quand même.
Oui. Mais je te laisse te faire des amis avec les gens de Tesla. Mais il y a quelques petits clins d'œil. Tu vois notamment les commandes clignotants puis essuie-glaces de BMW. Tu les reconnais. Donc ça, ils les ont gardés, par exemple.
Ouais. C'est correct. Ils sont solides.
Bah, puis ils sont assez beaux. Ça va. Mais
Je te rappelle que les premières Tesla avaient des leviers de Mercedes.
T'as raison. Alors, c'est vrai.
Hein?
Fait que, quand tu montes là-dedans, honnêtement, c'est en termes de, disons, de configuration, c'est assez classique. C'est très techno. C'est comme c'est la mode, en fait. Ils
donc
sont
gros,
vraiment adaptés.
Gros écran tactile qui remplace...
Est-ce que tu comparais le véhicule, par exemple, à un ID4?
Oui, dans l'esprit, oui.
Okay. Mais plus gros, le véhicule.
Ouais.
Ah ouais, parce que le ID4, c'est assez compact. Là. Moi, je considère pas que c'est un intermédiaire, mais pas du tout.
Non, c'est un peu entre deux aussi.
C'est ça,
mais...
c'est plus gros qu'une Bolt, là. Quand même, c'est ça.
Un petit peu. Ouais. Je te dirais que c'est un gros ID4, mais c'est pas tellement plus gros qu'un ID4. Okay.
Bon, là, évidemment... La grosse question, parce qu'il y a d'autres gammes, le VF9, qui est l'équivalent en 7 passagers, j'ai bien compris.
Oui, c'est supposé être ça, mais il est pas. Là, nous, on n'a eu aucune info là-dessus.
OK. Parce qu'on sait qu'on va arriver avec une gamme de 5 modèles. On va commencer par le VF8. Est-ce qu'on va le renommer pour le marché nord-américain?
Son nom, le VF8.
C'est son
il
nom
s'appellera comme ça.
Officiel. Bon, parfait.
Prix de départ, 50 000 $?
51 250.
OK. 51 250, excluant la batterie.
Oui, alors ça, c'est une autre affaire.
Parce
ça,
que c'est spécial.
C'est ça, ouais. Moi, là. Ouais. J'essaie de comprendre cette stratégie-là. Là. Tu sais, moi, je me vois pas aller chez Honda puis m'acheter une Honda Accord puis me faire dire où les roues sont en location. Vous pouvez pas les avoir avec l'auto.
On va offrir la batterie sous forme de location.
C'est ça. Ça nous a tous beaucoup étonnés quand on était sur place et qu'on nous a annoncé ça. On leur a dit, est-ce qu'on a le choix entre louer la batterie si on le souhaite ou acheter le véhicule directement? On nous a dit, en tout cas, pour l'instant, non. Eux, ils croient dur comme fer à ça. Et ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est que tu vas louer ta batterie pendant 3 ans. Tu vas payer un montant. On nous a parlé de 30 à 50 dollars, mais est-ce que c'est du US, du canadien? C'est encore un peu flou. Ça va peut-être aussi changer. Est-ce que les modalités, il y en aura des différentes? On ne le sait pas.
Parce que dans le prix que tu me donnes, ça exclut la batterie.
Le 51 000 $ là?
Absolument. Ouais. Non, absolument. Il faudra que tu rajoutes la batterie à ça.
Et là, moi, je me fais l'avocat du diable, mais à 51 000 $ ce véhicule-là pourrait potentiellement être éligible à certains crédits gouvernementaux.
Tout à fait.
Mais est-ce que tu inclus la batterie là-dedans? Parce que il faut quand même que tu calcules le coût total de ta batterie pour avoir le coût total du véhicule. Et là, comment tu vas faire pour appliquer un crédit?
Ben, c'est ça.
Si le PDSF est à 51 000, je veux dire, tu peux pas t'acheter un véhicule sans moteur. Puis c'est un peu ce qu'on fait.
Ça va prendre une nouvelle forme de réglementation parce qu'il n'y a aucun constructeur qui a cette stratégie-là.
Tu es conscient, Frédéric, que tu es en train de penser qu'il va falloir demander à un fonctionnaire.
En 2028, ça va être prêt.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Ouais, mais nous, on a posé des questions aussi sur comment tu financerais ça, parce que tu vas ajouter ce montant-là, mais tu vas pas le payer cash, tes 3 ans de batterie, donc tu vas l'ajouter dans ton, dans ton paiement total mensuel, mais comment ça va fonctionner? Pour l'instant, c'est très flou, on sait pas encore exactement.
C'est quoi l'avantage de cette stratégie-là? Offrir un prix plus bas ou...
Alors,
comment
nous,
on
a demandé l'avantage que ça apportait aux clients, et on nous a dit, ben, en fait, l'intérêt, c'est que si jamais la batterie perd en autonomie dans ces 3 ans, et qu'elle tombe à moins de 70% de capacité, on vous la remplace sans frais.
Okay.
Donc ça, à la rigueur, c'est quand même intéressant.
Ça apporte une certaine
70%.
C'est rare que tu fasses 70%.
T'sais, les premiers Leaf ont perdu 30%. Oh, oui, ouais. OK, mais on était dans les premiers balbutiements de la voiture électrique. Donc 70%, ça n'arrivera pas. Là.
Moi, la seule chose que je vois d'intéressante, c'est si jamais il y avait des problèmes de fiabilité au départ et que bah, finalement, tu te retrouves avec une batterie défectueuse, on va te la remplacer sans discuter. Bon, quelque part, c'est bien.
Parce qu'il faut dire que pour le public, d'acheter un véhicule vietnamien, tu sais, c'est pour bien des gens, c'est un gros point d'interrogation.
Au même titre que Imperium qui s'en vient avec des véhicules.
Oui, au même titre. Il y a aussi beaucoup de gens.
Soit dit en passant, j'ai croisé un Imperium tout près de chez moi à Blainville récemment.
Oui, j'en ai vu récemment aussi.
Je sais qu'ils font les essais sur le circuit de PMG. Peut-être qu'ils font des essais à l'extérieur, mais ça commence.
Oui, parce que petite parenthèse, VinFast n'est pas la seule marque. Nouvelle marque, dirais-je, à arriver sur le marché cette année. Il y en a plusieurs. C'est la seule marque vietnamienne.
Mais il y en a 5 ou 6, en fait.
Imperium, Rivian.
Imperium, Rivian. Il y a Atlas qui s'en vient avec des camions.
C'est vrai. Fisker. Il y en a quelques-uns.
C'est ça. Imperium, on vient de le nommer. Bref, il y en a plusieurs des constructeurs automobiles. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui vont sauter aussi.
Tu veux dire des plus vieux?
Tu sais, des marques qui perdent en intérêt. Ouais. Quand tu dis qu'Infiniti a vendu presque 3 fois moins de véhicules que Volvo l'année passée, t'as des infrastructures à tenir debout. Ouais. Tu sais, Jaguar, c'est sur le respirateur artificiel. Il y a des marques qui, tu sais, non. Bon, on peut penser à la marque Chrysler. On sait que là, bon, on va en parler un peu plus tard, mais Chrysler dévoile cette semaine officiellement la Airflow. On revient avec d'autres choses. Mais il y a des marques, ça fait pitié.
Ouais,
sauf
que
là, il y a une panoplie de nouvelles marques de voitures électriques. Et moi, j'ai l'impression que souvent, ces entreprises-là ne sont pas à la base des constructeurs automobiles, mais des marques techno.
Comme VinFast qui faisait un peu différent. Tout et rien.
Ouais, mais là, ils ont une vision. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ce que j'ai pu voir, on a vu l'usine aussi, on l'a visité.
Ouais.
C'est des installations qui sont gigantesques. Vraiment, c'est énorme. La facility là, qu'ils nous ont fait visiter, c'est gigantesque. Puis, ils sont pas dit, on va faire ça nous-mêmes, on sait pas faire, mais on va apprendre petit à petit. Ils ont acheté tout ce qui se fait de mieux en machine allemande, suédoise, etc. Il y a tout dernier cri.
J'ai vu des photos puis des vidéos. Tu pourrais manger à terre, là.
Vraiment,
assez fascinant.
C'est intégralement neuf. C'est des locaux qui sont immenses. Là, il y avait une chaîne, mais tu pourrais en mettre une deuxième sans aucune difficulté.
Okay.
Puis c'est tout du ABB, du Schuller, c'est toutes des machines.
Ah,
tu rentrerais là-dedans. Si t'enlèves les consignes écrites en vietnamien, tu te dirais c'est en Allemagne, je te dirais ben oui, c'est en Allemagne.
C'est pas la première usine automobile que tu visites.
Non, absolument.
C'est comparable à ce que tu as vu ailleurs.
Ouais, puis c'est même plus moderne qu'à d'autres places où je suis allé. Puis parce qu'ils ont tout acheté très récemment.
Qu'à Alliston en Ontario ou qu'à Windsor où ça fait des décennies que ça roule. Là.
Mais après, ils ont aussi l'avantage de dire ben nous, on sait ce qu'on veut et où on veut aller. Ouais. On a telle taille de bâtiment, ben on met les dernières technologies, puis on est correct. Et puis l'autre affaire aussi, c'est qu'ils ont fait des lignes qui sont adaptables. Sur la même ligne, tu peux fabriquer plusieurs véhicules différents et plusieurs technologies différentes. Nous, quand on est arrivé, ils faisaient donc la VFE34, qui est un véhicule électrique. Donc tu as les chariots qui amènent la batterie, par exemple, puis on la monte au-dessus du véhicule, on la fixe comme il faut, puis après ça, elle continue sur la chaîne. Puis après ça, il y a une Fadil qui arrive, donc une Spark. Mais elle n'a pas de moteur électrique.
Parce que ces modèles-là sont encore construits.
Ah, ils ne
sont pas vendus ici.
Donc, sur la même chaîne, tu peux fabriquer des voitures à essence.
Wow. Exactement.
Donc, ce n'est pas toute la même plateforme.
En fait, non. C'est adaptable. Dès que tu dis à la machine, là, on fabrique maintenant une VF8, il va dire, ah, OK, parfait. Donc là, il embarque sur la VF8. Mais il y a un système aussi de levée des véhicules. C'est-à-dire que le véhicule à essence va passer au-dessus du système de batterie parce qu'il n'a pas besoin. Puis il va redescendre par la suite. Et après ça, tu vas continuer la chaîne.
Incroyable.
À l'autre côté, quand il faut
et
monter moteur boîte.
La batterie va passer tout droit du.
Au-dessus du moteur boîte, par exemple. Okay. C'est ça. Donc ça, c'est assez impressionnant à voir quand même. Tu vois qu'ils y ont pensé en amont. Ils ne nous ont pas dit s'ils continueraient les véhicules à essence dans les pays émergents. Ils n'ont pas évoqué ça. Mais c'est possible qu'ils conservent ces autos-là, tu sais, Asie du Sud-Est, par exemple, ou des endroits comme ça.
Ben ouais.
Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. En Asie du Sud-Est, ce qui est roi, c'est le scooter et les mini-motos, aujourd'hui encore.
Puis ils en font VinFast aussi.
Ils en font aussi, d'ailleurs, électriques.
C'est un énorme marché.
Oui, oui, mais il ne faut pas oublier que par rapport à notre vision occidentale, il y a d'abord des scooters, puis d'abord des mini-motos. Ils peuvent être 2, 3, 4, 5 là-dessus, tu sais, les parents et les enfants.
On n'imagine pas. Avec l'épicerie de la semaine.
Exact. Tu sais, nous, quand on dit j'ai deux enfants.
Si tu as un premier enfant, ça te prend une minivan.
Exact.
Mais,
tu sais, c'est notre vision. Mais moi, tu vois, j'y suis allé il y a une dizaine d'années, et déjà là, en y retournant 10 ans plus tard, il y a beaucoup plus de voitures sur le marché. Il y a beaucoup plus de véhicules qui circulent que ce que moi j'avais vu initialement. Fait que on pourrait penser que le marché est en train de se modifier et qu'eux veulent suivre cette tendance-là.
Okay. Est-ce qu'on vous a dit ça représente quoi pour eux, le marché nord-américain, en termes de vente? Ils s'attendent-tu à...
Non.
Ça va être fraction de leur vente mondiale.
J'imagine, mais j'ai une info intéressante quand même. Au Canada, les personnes qui ont précommandé le plus de VinFast sont les Québécois.
Un
véhicule électrique sur deux au Canada roule au Québec.
Mais malgré tout,
tous les constructeurs automobiles nous disent ça en ce moment, mais la vérité, c'est que c'est le même gars qui a placé 6 commandes. C'est ça le marché actuel. C'est que, en fait, tu sais, le Québec et le Canada, on est tellement contraints par la quantité de véhicules qui rentrent chez nous parce qu'on préfère les vendre ailleurs que... Là, tu vas avoir un véhicule électrique, ben c'est pas lequel tu veux avoir, c'est lequel tu peux avoir. Ouais. Fait que tu mets ton nom partout, tu mets un dépôt de 500$ chez tous les constructeurs, le premier qui va arriver, tu vas le prendre.
Le Québec est aussi la province la plus généreuse pour ce qui est des subventions pour les véhicules électriques.
Ah, puis au-delà de ça...
Le VF8 va être éligible, fait que c'est pas surprenant.
Mais tu pourrais avoir des réticences à avoir un véhicule que tu n'as jamais vu, jamais conduit.
C'est
ça. Tu pourrais dire aussi, oh, ça, je connais pas du tout,
mais
je sais pas si j'embarque.
C'est des engagements nets.
Tu pourrais avoir une réticence, je suis d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, là, Ford, ça fait combien d'années qu'ils fabriquent des véhicules? Ça fait combien d'années qu'ils vendent des véhicules ici au Canada? Puis là, ils sortent un Mach-E, puis j'ai pas entendu de véhicule électrique plus défectueux que celui-là. Fait que je me dis qu'ils peuvent pas faire pire.
Mais non, moi, d'être déjà sur notre marché n'est pas garant de succès, mais pour un consommateur...
Non, mais pour la fiabilité, tu sais, les
gens...
C'est
un point d'interrogation de dire, ben, j'achète un auto qui n'a jamais roulé ici, qui vient d'un pays que je connais pas. Tu sais, il peut avoir
moi,
une
certaine
réticence.
Moi, c'est pas tant ça qui m'inquiète que le réseau. Et d'où ma prochaine question. VinFast, on va voir ça où? Est-ce qu'ils ont des concessionnaires? Est-ce qu'ils vont partir une boutique dans le Carrefour Laval
comme le
maquillage MAC? Là,
pour l'instant, l'idée, c'est ça.
On n'aura pas de concession en tant que
normalement, tel. Ça va être des centres, des sortes de salles de montres comme pour d'autres constructeurs. Est-ce qu'ils vont changer aussi leur manière de voir? C'est possible. Ils avaient l'air assez ouverts aussi à modifier assez rapidement leur manière de faire si jamais ils se rendaient compte que ça ne fonctionnait pas.
Mais ce qui va arriver, parce qu'on s'entend...
Moi,
là,
je pense comme toi.
Je veux dire, Polestar s'est planté avec sa première idée. Là, ils ont fini par fabriquer un concessionnaire dans la cour d'un concessionnaire Volvo. Genesis, qui pensait vendre des voitures dans des centres d'achat, commence à construire des méga concessionnaires. Fait que tous ceux qui ont eu cette idée de vouloir vendre des voitures sur le coin d'une rue dans un stand à hot dog, ils se sont bien rendus compte que ça ne marchait pas, ou de façon virtuelle. Le marché ici, c'est pas ça.
Non.
Puis chaque constructeur qui veut emboîter, c'est pas... Même Tesla. Oui. Tesla, au début, là, c'était des points de service. tu veux les monstres qu'on construit
ouais,
maintenant.
C'est comme des concessionnaires fait que, maintenant.
Non, appelle ça comme tu voudras, là. Il y a une expérience client que les acheteurs veulent avoir, peu importe ce que c'est. Oui, tu peux faire une transaction en ligne, mais ils vont finir par avoir des bâtisses.
Est-ce qu'ils ont déjà annoncé ça va être où les premières bâtisses VinFast
il y en a une,
au Québec?
Ils nous ont dit une au Carrefour Laval, dans ce coin-là.
Pour vrai?
Voilà.
Ouais, ouais. Moi, j'ai dit ça comme ça. Là.
Non,
okay.
Non, mais, okay. Après, tu pourrais penser au 10-30 parce que bon, ce serait la même affaire. Ouais, à mon avis, ça va être assez suiviste. Mais moi, comme toi, je pense que tôt ou tard, ils vont devoir passer à des vrais concessionnaires s'ils le veulent. La chance qu'ils vont avoir, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils investissent énormément. Et quand on leur a dit, mais imaginez que les batteries, ça marche pas ou quoi, ils disent, bah écoutez, si ça marche pas, on se reverra de bord. Tu sais, ils ont pas été fermés en disant, bah nous, on sait qu'on a raison, puis c'est tout. Ils ont une vision assez pragmatique de tout ça. Eux, ouais. Ils ont dit, on veut les meilleures affaires. Fait qu'on va aller chercher les Allemands ou les Suédois pour construire ouais. les véhicules, Pininfarina pour le design. Puis tu sais, ils ont vraiment cette manière de faire. Puis on a vu aussi des gens, des cadres de VinFast, qui sont d'anciens de Opel, de GM. Donc ouais. tu vois aussi des Occidentaux qui sont là et qui, eux, disent, bon, enfin. On n'a pas l'expertise, on va aller la chercher.
Ouais. Puis ils vont construire des véhicules aux États-Unis aussi.
Oui,
il y a une usine qui va être ouverte en Caroline du Nord.
Oui, ça c'est ça aussi. C'est même Joe Biden en a parlé, donc c'est quand même une grosse nouvelle. On parle
donc on sera pas loin de chez BMW.
Oui, absolument. Okay. On parle okay. de 2 milliards, tu sais, quand même, d'investis. Joe Biden parle même lui de 4, mais peut-être qu'il prend plus de distance avec les années. Et 7 000 emplois. Fait que pour eux autres, c'est très important.
Ouais. Mais à peu près tous les VinFast qui vont être vendus ici, à part peut-être les premiers, ne seront pas construit au Vietnam, vont y construire aux États-Unis.
Au début, ce sera construit au Vietnam, puis après ça aux États-Unis, évidemment. Puis ne serait-ce qu'être dans l'ALENA, ça va être plus facile de les construire.
Donc,
aux États-Unis.
Donc, on est allé chercher de l'expertise chez d'autres constructeurs automobiles, un peu comme l'a fait Lucid. Bon, en voulant un autre nouveau constructeur
oui,
automobile qui débarque. Alors, Lucid, ça a été un peu la même chose. Le design, c'est on doit le design à celui qui a dessiné la dernière Mazda MX-5. À la Lucid Air. Alors, tu sais, il y a beaucoup de gens qui proviennent d'autres constructeurs, dont Tesla, d'ailleurs, chez Lucid. VinFast, c'est un peu la même chose. On est allé chercher l'expertise. Là.
Mais c'est une bonne idée, tu sais, parce que si tu ne connais pas, effectivement, vois avec ceux qui savent, tout simplement. Et je pense que, de ce point de vue-là, par contre, ils ont une vision aussi très rapide. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que VinFast, il y a moins de 5 ans, il y a 5 ans, ça n'existait pas. Et l'usine là, qui vient de nous montrer, elle a 21 mois. C'est-à-dire qu'ils ont
donc, sont
sorti
capables
de terre un truc de 2 km sur 1 en 21 mois. Ils ont,
sont
ils
capables de réagir, de s'adapter rapidement à ce qu'un gros constructeur américain n'est pas capable de faire.
Je pense qu'ils ont effectivement ce côté très adaptable parce qu'ils sont tout neufs et qu'ils peuvent se le permettre et qu'ils ont aussi les liquidités puisque tu es un très gros conglomérat.
Ouais.
Mais tu les sens très motivés à l'idée de réussir ce défi-là. Ils ont l'air quand même vraiment... C'est pas juste dire on va mettre quelques véhicules au Canada puis on verra si ça marche ou pas. Ils ont vraiment l'idée de ça puis ils nous ont dit rendez-vous dans 10 ans. Là. Tu sais, tu sens,
est-ce que ça te donne l'impression qu'ils sont à tâtons en ce moment, sont en train de tester le pouls du marché ou est-ce qu'ils ont vraiment une idée claire, par exemple le VF8, notre concurrence, c'est ta-ta-ta-ta-ta-ta?
Pour l'instant, ils n'ont pas évoqué ça. Moi, okay. je pense effectivement qu'ils ont encore assez peu d'expérience en termes automobiles et ils s'avancent pas trop. Ça me fait un peu penser, genre, on a une idée, on pense qu'on doit aller vers cette idée-là. Si jamais ça marche pas, on va se revirer de bord.
Puis on a les ressources aussi pour se revirer de bord parce que c'est un monstre financier en arrière de ça. C'est pas un petit joueur qui débarque. Là.
Non, puis moi j'ai l'impression aussi que là, ils vont investir beaucoup d'argent dans les mois et années qui viennent, quitte à perdre de l'argent pour en gagner beaucoup par la suite. Mais la démarche, en tout cas, elle est sérieuse parce que tu n'implantes pas une usine de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis si tu veux juste importer quelques véhicules random.
Non.
C'est que tu as l'intention de rester là.
Et rassure-moi, ils n'ont pas l'intention d'installer leur propre réseau de bornes de recharge.
Alors, pour l'instant, ils n'ont pas parlé de ça.
Mais au Vietnam, il y en a.
Oui, il y en a au Vietnam.
Ils l'ont
absolument.
Fait.
Absolument. Ils ont des bornes. Là, moi, on en a aperçu. Moi, j'étais dans l'autobus, puis on est passé devant. Il y avait des bornes
des
de recharge.
Des VinBornes?
Oui, ben, j'ai pas vu le nom. Des VinCharge.
C'est sûr que c'est Vin quelque chose.
C'est sûr, c'est VinPlug. VinCharge ou VinPlug, c'est quelque chose de même. Mais ça, je les ai pas vus. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, je sais pas s'ils vont le faire.
Ouais.
À voir, tu sais, si mais le marché va être un peu aussi chez nous là avec Tesla plus
ben c'est ça à un moment donné
Canada, plus
ça,
le électrique,
ça commence à être ridicule.
T'as peut-être pas forcément intérêt à dépenser tant d'argent là-dedans.
Ben c'est ce que Rivian a l'intention de faire.
Ah oui, mais
et moi je trouve que c'est une très mauvaise idée.
Ça suffit à un moment donné.
Je pense qu'il est trop tard.
Ouais, exactement.
Julien Amado, merci énormément. T'as écrit déjà un essai routier rapide de tes impressions
ça,
avec le VF8 sur le site du Guide de l'auto.
Ah, t'es sérieux?
Fait qu'on vous invite à aller lire ça, puis en espérant qu'on puisse conduire ce véhicule-là sur les routes du Québec bientôt. On l'attend pour l'automne 2022.
Pour l'automne. Mais nous, on devrait pouvoir le conduire à l'été, normalement.
Très hâte de voir ça. Merci beaucoup, Julien.
On va voir si on va respecter les échéanciers un peu plus efficacement qu'Imperium, qui nous avait promis des véhicules en décembre et au moment où on enregistre, l'homologation n'est toujours pas confirmée.
On verra ça.
Merci, Julien.
Salut.